Vous écoutez RTL.
Mange des tomates nuit et jour.
On est bien entre curieux.
Ça donne bonne mine, c'est plein de vitamines.
Sur RTL.
Vitamine ABC, c'est bon pour la santé.
Entrez.
Un conseil, madame, un conseil, monsieur. Mangez, mangez sain, mangez frais, mangez des tomates.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Vous êtes peut-être en train de cuisiner chez vous, mais peut-être même que vous cuisinez des tomates. Ça tombe bien parce qu'on a le prince jardinier dans ce studio. Il est tombé amoureux de la tomate au point de changer de vie et de la collectionner dans toutes ses variétés. Vous nous avez apporté un panier de tomates. Quand je dis tomate, évidemment, c'est avec un S. C'est pas qu'il y a plusieurs tomates, c'est qu'il y a plusieurs variétés de tomates. Il y en a une qui a une... Alors c'est soit... Je pense que c'est un cœur.
C'est la rencontre... Voilà, absolument, c'est un cœur. C'est la rencontre entre deux... de ce qu'on appelle des poires de Nouvelle-Zélande.
Des poires de Nouvelle-Zélande, il y a des tomates jaunes aussi. Alors, je ne savais même pas qu'il y avait des tomates jaunes qui avaient la forme d'un abricot, d'un...
Presque.
Ou d'un œuf, on dirait un œuf.
On dirait un œuf.
C'est joli. Ça s'appelle un yellow egg.
Il y a cette petite tomate aussi ronde, on dirait...
C'est presque...
Pas ronde, elle est ovale, elle est jaune.
Oui, c'est une petite Mirabella.
Une orange, très jolie.
Une orange coin.
Mais il y a autant de tomates parce que
je vais vous décevoir.
J'étais presque pas au courant en fait que
c'est pas
ça.
c'est pas quelques-unes, c'est des dizaines de milliers parce qu'on a plus de 20 000 variétés recensées dans le monde.
20 000 variétés et pourtant nous on n'en connaît que combien en France finalement?
C'est ça le drame, c'est qu'on n'en connaît que quelques-unes et encore on a fait des progrès parce que depuis quelques années on en voit toutes les couleurs. Mais effectivement la recherche a fait qu'après la guerre on en cultivait quelques-unes qui devaient être rondes. Peu goûteuses, bien calibrées et qu'on mesurait en les faisant tomber si elles résistaient bien et ça s'appelle la résistance du choc.
On va reparler de ces tomates un peu mutantes qu'on a la malchance de manger aujourd'hui. La tomate et vous, c'est une histoire d'amour. À quand remonte le coup de foudre?
Je pense beaucoup ceux qui ont connu les potagers de notre enfance où on piquait les fruits et les légumes quand on n'avait pas le droit. Et moi, c'était la tomate, entre autres, et les framboises et les fraises. Et comme collection, 20 ans, 22 ans, très exactement, en 91.
Vous êtes à ce point amoureux de la tomate que vous changez de vie. Vous étiez banquier, vous devenez jardinier, c'est ça?
Oui, mais banquier, c'est une vieille vie. Je suis devenu non seulement jardinier, mais collectionneur de cette diversité qu'on n'appelait pas encore biodiversité et qu'on a maintenant mis, on a fini par mettre un mot sur ce qu'on appelle la richesse variétale.
Mais ça veut dire que vous voyagez beaucoup pour trouver ces variétés de tomates? Sidonie, arrête de les manger, s'il te plaît.
Elle a le droit.
C'est trop bon.
Voilà, c'est trop bon.
Oui, mais elles sont toutes de son côté, où elle vient de boire.
Oui, mais d'abord, vous pouvez vous battre.
Celle-là, elle est jolie, c'est une petite poire. Une petite poire,
je vais partager et voler. Écoutez, on ne voyage pas parce que la tomate a voyagé pour nous. La tomate, c'est une chose extraordinaire. Elle a été découverte par les conquistadors au XVIe siècle au Mexique, en Amérique latine. Et puis depuis, elle n'a pas arrêté avant qu'on l'ait prise, évidemment, pour un poison, parce que c'est la cousine de la belladone, de la mandragore, de plantes maléfiques, qui sont des cousines de la solanacée.
Ah oui, c'est le fruit du diable, longtemps.
C'était le fruit du diable.
La tomate.
Absolument. Et puis ensuite, on a appelé la pomme d'amour, la pomodoro, et c'est devenu un fruit consommé en Espagne, puis en Italie, enfin en France après la Révolution, et puis un peu partout dans le monde, en Amérique seulement, en Amérique du Nord seulement au 19e, vers 1820-1830. Donc la tomate, c'était tardif, et en même temps, c'est d'une extraordinaire... c'est un voyage formidable, parce que ça fait le tour du monde. Donc vous avez vous parlez de la New Zealand Pie, ou la Japanese Pink, ça a des noms de lieux, et puis de pays, la Corogo du Sénégal, la White Canadian, la Blanche d'Anvers, voilà.
Qu'est-ce qui fait la rareté d'une tomate ou d'une espèce, c'est le fait qu'elle soit très peu cultivée dans un pays très éloigné. Qu'est-ce qui fait la rareté d'une espèce?
Aujourd'hui, malheureusement, ce qui fait la rareté, c'est la méconnaissance. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'on a le sentiment que ce qui n'est pas à nos yeux immédiatement tel ou tel fruit ou tel légume est effectivement rare. Mais en fait, c'est pas tellement rare parce que elles sont identitaires de lieux. Ceux qui les cultivent ou les cultivaient les ont toujours comme un patrimoine génétique qu'ils continuent à entretenir. Et c'est encore une fois la rareté, c'est le fait que éventuellement on a voulu breveter le vivant et en voulant breveter le vivant, on a voulu éradiquer cette nature généreuse.
Louis-Albert De Breuil, juste pour être d'accord sur ce dont on parle, la tomate, c'est un fruit ou c'est un légume?
C'est un fruit.
Et pourquoi c'est un fruit?
C'est une bémol. Et effectivement, c'est considéré botaniquement comme un fruit. Pour beaucoup, l'appréciation de la tomate, c'est que c'est cultivé pour être consommé comme un légume, c'est-à-dire comme quelque chose qui est salé. Ce qui est une erreur, parce que fondamentalement, ce fruit est sucré, il peut être acide, mais il est fondamentalement sucré, et vous avez beaucoup de variétés qui sont extraordinairement sucrées.
D'ailleurs, c'est quoi la différence entre un fruit et un légume? Comment on sait?
Alors, c'est très simple.
Bah ouais, mais moi, je ne sais pas.
Non, c'est très simple. Vous avez une
belle tomate
qui a ses pépins à l'intérieur.
Ouais.
Voilà.
D'accord. Alors,
donc, c'est un fruit.
Ok, très bien.
On va continuer de déguster. Oui, c'est vrai que je suis gourmande, mais c'est aussi le sujet de notre émission. La curiosité est un vilain défaut. On va continuer de déguster avec vous, Louis-Albert de Breuil, ces tomates. Vous allez nous expliquer quelles sont les différentes saveurs, puisqu'aujourd'hui, on a l'impression qu'il n'y a qu'une saveur. On va les goûter avec vous et vous allez nous décrypter ça sur RTL dans un instant.
On est bien entre curieux sur RTL. Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
La curiosité est un vilain défaut.
RTL.
Téton de Vénus, cœur de pigeon, poil blanc, petit moineau, rose de Berne, cornu des Andes. Mais oui, j'en ai plein encore. Des petits noms sympas pour vous, Sidonie. Non, ce sont quelques-unes des variétés de tomates que notre invité Louis-Albert de Breuil a cueillies, a développées et qui poussent aujourd'hui, qui s'épanouissent, j'ai envie de dire, dans votre potager au château de la Bourdaisière. C'est près de Tours. Il fait quelle taille votre potager? C'est un tout petit potager tranquille?
Un hectare.
D'accord, bon hectare. Ça calme. Un hectare.
C'est quoi? C'est 10 000 mètres carrés, c'est ça?
Bravo. Oui.
C'est énorme.
Vous êtes meilleur que certains ministres qui ne savaient pas ce que ça faisait, sans les nommer.
Vous êtes, je ne sais pas s'il y a un concours d'ailleurs, mais vous êtes le plus grand collectionneur de tomates de France. Vous avez des concurrents, tiens?
Il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent effectivement à la diversité de ce fruit. Mmh. Et donc, il y a, Dieu merci, beaucoup d'amateurs et d'amateurs qui ont compris qu'on pouvait trouver, l'important c'est de trouver les graines. Donc, on trouve des associations comme Cocopelli. Aux États-Unis, il y a une chose qui s'appelle le Seed Savers Exchange qui a plus de 3000 ou 4000 variétés à son catalogue. Donc, on s'aperçoit effectivement que c'est la diversité qui commence à être présente dans des catalogues et qu'on peut acheter.
Et l'objectif, c'est de sauver des espèces qui étaient en voie de disparition, d'une certaine façon?
Alors, d'une part, c'est de non seulement les cultiver, les déguster, mais partager, parce que ces espèces ont une qualité, c'est que les graines qu'on peut récupérer, ces fameuses graines, elles vont pouvoir donner d'autres fruits. Donc, ce ne sont pas des gènes morts, ce sont des elles sont fertiles. Et c'est la grande chance, c'est que vous pouvez récupérer les graines, et de ces quelques graines que vous avez dans le fruit, c'est-à-dire jusqu'à 25 ou 30 graines quelquefois, vous pouvez avoir autant de nouvelles plantes tomates, et donc, autrement dit, partager avec beaucoup de gens.
Alors, vous avez employé... vous avez employé le mot magique, déguster. Vous êtes chez vous, là, en ce moment, vous avez forcément une tomate quelque part dans la cuisine. Prenez-la, goûtez-la, vous allez vous dire quoi? Vous allez vous dire... Elle n'a pas beaucoup de goût. Il y a eu une uniformisation, d'une certaine façon, du goût des tomates qu'on achète le plus souvent au supermarché. Mais là, alors là, vous nous avez apporté... On en a parlé tout à l'heure, elle est toute orange. Elle a quoi comme goût, celle-là?
Alors, celle-là, elle est, vous avez remarqué, elle est toute orange, mais sa peau...
Je vais la croquer pendant ce temps-là.
Sa peau est un peu dure. Vous allez voir qu'elles ont un goût un peu... Elle est bonne parce qu'elle a beaucoup de chair. Mais elle a encore, elle a perdu à cause de la pluie, elle a perdu son côté très sucré. Et celle-là, elle est beaucoup de chair et très sucrée.
J'en ai une en main, Louis-Albert de Breuil. Elle est toute biscornue. Elle est toute déformée. D'ailleurs, je me dis, si on met ça sur un étal aujourd'hui de primeur ou au supermarché, les clients, ils font quoi? Oh, Berk, elle est malade cette tomate. Est-ce qu'elle est malade?
Elle n'est pas du tout malade. Elle s'appelle la Korogo du Sénégal. C'est une tomate, effectivement, comme un petit cucurbitacé, dont on pourrait presque. Il y a une tomate qui s'appelle Voyage, où on sépare les carrés. Un peu fade, mais en même temps pleine de chair. Et donc, c'est une très, très bonne tomate, une tomate qui se garde très bien.
Et on dit...
On peut en mettre partout.
J'essaye de ne pas en mettre partout, mais je ne peux plus poser de questions.
On dit que les tomates sont parfois parfumées après coup, les tomates qu'on découvre, qu'on achète au supermarché.
Alors, c'est pas exactement
ça. C'est une rumeur ou pas?
C'est pas exactement ça. Vous savez que le problème des tomates est un problème qui, dans les années 90, a failli faire chuter cette filière parce qu'ils ne vendaient plus les tomates. Pourquoi? Parce qu'elles étaient rondes, elles sentaient rien, elles n'avaient pas de goût, elles étaient fades et en plus de ça, elles étaient moches. Et finalement, on a inventé plus ou moins la tomate grappe. Et en fait, on trouvait que la tomate grappe, c'était formidable parce que les tomates sortaient bon. Et en fait, ce qui sent dans la tomate, c'est pas la tomate généralement, c'est le feuillage. Le feuillage est très prononcé.
Donc, ça veut dire que la tomate grappe, elle est pas meilleure qu'une tomate toute simple?
Alors, les premières variétés de tomates grappe, qui étaient des variétés modernes, des hybrides F1, elles avaient pas beaucoup de goût, très honnêtement. Maintenant, les nouvelles variétés dites modernes ont beaucoup plus de goût parce qu'on a gardé des gènes de variétés anciennes.
Donc on peut manger.
C'est un peu technique, mais.
Ouais, mais moi, ce que je me demande, c'est quand je vais au supermarché et que je prends des tomates, comment je les choisis? Est-ce que je suis sûre de manger une bonne tomate?
Alors, c'est le grand sujet aujourd'hui d'aborder vraiment ce qui.
Mais ils nous concernent tous, ce sujet.
Et déplaît beaucoup de gens. C'est qu'aujourd'hui, beaucoup parlent de la Green Zebra, beaucoup de gens parlent de tomates comme la cœur de bœuf. Mais les cœurs de bœuf, il y a 50 cœurs de bœuf. Donc on utilise des noms génériques pour des variétés anciennes qui ne sont pas brevetées, déposées, parce que la volonté de ceux qui les cultivent, c'est justement de ne pas en faire un commerce. Or, la réglementation voudrait.
Attendez, ça veut dire qu'en fait, on ne mange pas de vrais cœurs de bœuf, c'est ça ce qu'on
non.
trouve
Ça, c'est une certitude. On consomme des cœurs de bœuf, mais qui ne sont pas les variétés anciennes cœurs de bœuf. Ce qu'on appelle les variétés anciennes sont les variétés population, c'est les premières variétés.
Donc, ce qu'on mange, la cœur de bœuf qu'on mange, pour être clair, c'est une cœur de bœuf qui a muté,
c'est une
pâle copie.
On va dire que c'est tiré des variétés anciennes, mais on a introduit des nouveaux gènes de sorte à pouvoir mieux les conserver. Et donc, c'est un vrai sujet. C'est un sujet sur lequel la filière de tomates est aujourd'hui, je dirais, non seulement attaquée, mais en même temps se pose la question comment pouvoir réagir, parce qu'on a, à tort, utilisé des noms qu'on n'aurait jamais dû utiliser.
Mais où on peut trouver rapidement ces tomates magnifiques, délicieuses que vous nous avez apportées?
Alors, dans votre potager, déjà?
Dans les potagers qui en cultivent, des variétés anciennes, et Dieu merci, il y a un mouvement beaucoup plus important qu'on l'imagine, de gens qui ont envie de retrouver des variétés anciennes. Et parler de curiosité, la curiosité, c'est d'aller chercher dans les jardins ces variétés anciennes, les cultiver, les partager, et on en trouve beaucoup.
Et vous partagez cette passion dans votre livre Les tomates du prince jardinier, c'est publié chez Michel Lafon. La tomate est en danger, qu'est-ce qui peut la sauver? Comment bien la choisir? On vous dit tout dans un instant sur RTL.
La curiosité est un vilain défaut. Thomas Hugues, Sidonie Bonnec sur RTL.
Pour obtenir de grosses tomates savoureuses et juteuses, il faut les tailler.
RTL. Réaliser un coulis de tomates. Voilà, trois belles tomates, un bouquet de basilic, un demi-oignon ciselé.
La curiosité est un vilain défaut.
Alors aujourd'hui, on va faire une sauce tomate bolognaise.
Curieuse, curieux, vous êtes chez vous sur RTL.
Mange des tomates nuit et jour.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
La tomate est une star parmi les fruits. On en mange 14 kilos par personne et par an en France. C'est le fruit le plus consommé après la pomme dans notre pays. Mais ce qu'on mange, est-ce que c'est vraiment de la tomate ou une pâle copie? On a quand même des craintes, Louis-Albert de Breuil. Vous êtes collectionneur de tomates, jardinier prince et prince jardinier. Vous êtes royal. Vous nous avez parlé des cœurs de bœuf. Alors, la cœur de bœuf qu'on achète aujourd'hui n'est plus vraiment la vraie cœur de bœuf.
D'abord, il y a plusieurs cœurs de bœuf.
Donc, ça veut dire que. Mais comment ça va? Est-ce que ça va s'arrêter, ça? Est-ce qu'un jour on va pouvoir remanger les vraies tomates?
Alors d'abord, il y a une réglementation qui est une réglementation européenne où on doit normalement vendre uniquement des fruits qui ont été enregistrés au catalogue officiel. Donc on ne peut produire pour le commercial que des fruits qui ont été tracés, dont la traçabilité c'est de savoir exactement d'où ils viennent. Ce qui est absurde parce que toutes ces populations de variétés anciennes.
C'est ce que j'allais vous demander, ce que vous nous avez apporté.
Ils sont pas répertoriés. Ils sont répertoriés chez les collectionneurs,
oui, bien sûr,
mais pas au catalogue
officiel. C'est des tomates torpistes, c'est ça ?
Des tomates qui sont vraiment, encore une fois, dans le bon chemin, mais considérées hors piste.
Et qui sont encore une fois délicieuses pour en avoir goûté quelques-unes tout à l'heure. Et donc vous n'avez pas le droit, je vais au bout de la logique, de les commercialiser.
Absolument. Et on prend ce droit.
Qu'est-ce que vous risquez dans ce cas-là ? Ah, vous le faites ?
Bah écoutez, peut-être que demain matin, grâce à vous, ils viendront dans mon potager. Et alors le drame, c'est que les gens qui viennent vous voir dans ces cas-là sont un peu surpris de se dire on doit éventuellement réglementer et légiférer, alors que par définition, ce sont des variétés extraordinaires qui sont bonnes pour tout le monde et qui n'ont pas de pesticides, pas d'intrants et qui ne vous donnent pas de maladies.
Quelle absurdité.
Donc on est dans un monde un tout petit peu absurde et c'est là où effectivement il faut changer de ce monde.
On peut visiter votre potager au château de la Bourdaisière à Mont-Louis-sur-Loire. alors, près de Tours?
Alors, non seulement on peut, c'est un château-hôtel, donc on peut même y résider, on peut le visiter, on peut déguster bien d'autres choses que des tomates.
Oui, d'ailleurs, vous êtes un passionné de fruits, de légumes, d'authenticité. Vous publiez chez Michel Lafon Leçon de choses en 2 tomes. C'est quoi? Je vois des cartes absolument magnifiques avec...
C'est une maison de sciences naturelles, scientifiques, qui a bercé à peu près toutes les générations, 150 ans de dessins extraordinaires, de cartes de France. Et effectivement, il y a eu un premier volume de ces planches pédagogiques, dont la nostalgie, c'était de retrouver ce corps humain, ces planches sur les leçons de choses. Et puis, le succès a emmené le deuxième volume, et Michel Lafon a décidé d'en faire un coffret. C'est le coffret qui rassemble les deux volumes, donc plus de 250 planches, qui illustre toute l'éducation et qui n'ont pas tellement vieilli dans le fond.
Et c'est génial parce qu'en le feuilletant, je suis en train de le feuilleter, bah ça y est, je suis reparti en... Je vois presque mon institutrice, quoi. C'est assez magique.
Alors, tourner quelques planches, vous allez tomber sur des planches sur l'alcoolisme et vous allez me demander... et vous allez peut-être me dire ce que ça vous rappelle.
Mais là, j'avais vieilli quand même.
Dites-moi, vos tomates, Louis-Albert de Breuil, on peut les déguster un peu comme des bons vins dans votre château. C'est quoi la meilleure façon de les préparer pour vous? Allez, une petite recette à vous.
Alors, très simple. Quand vous parlez de cœur de bœuf, c'est des grosses tomates pleines en chair, comme les ricards d'Australie. Il y en a une qui s'appelle la grosse portugaise, qui est absolument délicieuse. On les coupe, on les grille aller-retour, de la fleur de sel, tout simplement un peu d'huile d'olive. C'est absolument délicieux. Donc ça, c'est simplissime. En jus, vous prenez une centrifugeuse, une bonne maison, vous centrifugez, vous faites un jus de tomate verte ou un jus de tomate, et ensuite vous récupérez la pulpe, donc vous ne perdez rien. Vous mélangez ça avec des herbes, de la livèche, du thym, un peu de sauge, un tout petit peu, vous en avez dans mon sac, toutes sortes de basilic, et là, vous cuisez pendant des heures, vous laissez reposer avec beaucoup d'huile d'olive, vous laissez reposer, vous allez remonter toute une sauce qui va être, elle, pour vos pâtes, et le dessous, un peu plus compact. Ça, c'est un nectar, c'est du caviar, ça fait concurrence à tout.
Quel bonheur.
Pour finir, vu que c'est un fruit, la tomate, on peut la mettre dans une salade de fruits avec des fraises, des pommes?
Absolument. Non seulement vous pouvez la mettre, mais les petits fruits, comme la black cherry que vous avez peut-être dans le sac, et qui sont tellement douces que ça fait pâlir les fraises, et certainement les framboises et les dernières framboises.
Allez, je vous fais une salade de fruits, Thomas, pour après l'émission.
Mais on a envie de quitter l'antenne pour aller tout de suite déguster ce plat. Merci beaucoup.
Monsieur le jardinier, tout de même.
Beaucoup.
Merci, Louis-Albert de Breuil. Vous publiez Les tomates du prince jardinier chez Michel Lafon et Les leçons de choses chez le même éditeur.
Voilà, nous on part en week-end, je crois qu'il est bien mérité, mais on revient lundi de 15h à 16h pour les meilleurs moments. C'est comme tout l'été sur RTL, avec au programme lundi...
Attendez de voir ce qu'on vous a préparé. Des histoires érotiques au château de Versailles.
Ah bon, faut que je fasse des étirements alors. Hein.
Et puis le festival de Woodstock, boue, scandale et bonne musique au menu. Pas besoin de vous entraîner à chanter, Thomas. Merci.
Bon après-midi à toutes et à tous. On se retrouve lundi. Bon week-end encore une fois. Dans un instant, les grosses têtes.